Sur Radio Ndekeluka, Inès Langopo vient de faire son entrée au studio pour la présentation de la grande édition de la mi-journée. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres du journal de la mi-journée de ce mercredi. Un calme précaire règne à Boyali, Bossembélé et Yaloké. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont repris le contrôle de plusieurs villages dans ces localités. 44 rebelles tués et 3 autres capturés, c'est le bilan des offensives lancées contre les positions des rebelles à Boyali et Bouda. À suivre, Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement, dans ce journal. Au sommaire également, viol sur mineur à Birao dans la Vakaga. Un homme de 42 ans a abusé sexuellement sa fille adoptive de 13 ans depuis un an. Football, démarrage aujourd'hui de la 9e et dernière journée du championnat aller de la Ligue de Bangui.
À la une de ce journal, Inès, un calme précaire règne dans les localités de Boyali, Bossembélé et Yaloké après les combats signalés ces dernières 24 heures.
Oui, les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont repris aux rebelles de la CPC le contrôle de plusieurs villages non loin de Bossembélé. Cette avancée occasionne non seulement la panique au sein des rebelles, mais aussi la peur parmi la population. Précision de Francis Claver-Cala.
Pour éviter tout dommage collatéral, plusieurs habitants de Lambi et de Bossembélé ont fui en brousse. L'avancée des forces loyalistes avec la prise de Lambi a fait fuir, selon des sources locales, de nombreux combattants rebelles vers l'axe Bossangwa. Jusqu'à ce mercredi matin, il est difficile de dire avec précision ce qui se passe dans les villages environnants de Bossembélé, car la communication n'y est pas facile. Cependant, dans la ville de Bossembélé, un calme relatif est observé. Quelques habitants vaquent à leurs occupations tout en restant sur le qui-vive. C'est la même situation à Yaloké, située à 68 kilomètres de Bossembélé. Dans cette localité où la présence des rebelles est encore signalée, les activités tournent au ralenti. La peur gagne les habitants qui sont plus terrés chez eux ou réfugiés en brousse. Pour l'instant, la principale préoccupation de la population des localités affectées est le rétablissement de la sécurité sur l'axe Bangui-Boire et Boire-Béloko pour permettre l'approvisionnement du pays.
Le gouvernement dresse un bilan lourd de pertes en vies humaines dans les rangs des assaillants.
44 rebelles tués et 3 autres capturés, c'est le bilan des offensives menées avant-hier à Bouda dans la Lobaye et à Boyali dans l'Ombela-Poko par les forces armées centrafricaines appuyées par leurs alliés. Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement au micro de Armand Yangendi.
Lors d'une opération menée par nos forces et les alliés conjoints, nos forces ont répliqué, en tout cas ont attaqué sur à quelques kilomètres de Boyali en fait. On fait dans le camp ennemi de 44 morts, 3 prisonniers déjà envoyés sur Bangui parce que nous avons besoin d'investiguer.
Après la reprise du contrôle de la ville de Bouda par les forces nationales et leurs alliés, la vie reprend progressivement son cours normal.
Effectivement, quelques commerces ont rouvert au marché. Cependant, de nombreux habitants pris de panique n'ont pas encore regagné leur maison. Le point sur la situation avec Maxime Lalaï.
Après plus de 2 semaines de psychose, Bouda tente de renouer avec son calme d'antan. La reprise de la ville par les forces armées centrafricaines et leurs alliés a permis à certains habitants qui s'étaient réfugiés en brousse de regagner progressivement leur maison. Même si bon nombre préfèrent garder leur cachette et observer d'abord l'évolution de la situation, la ville est plutôt calme. Ce mercredi, les activités ont timidement repris dans le marché. Certains commerces ont rouvert, mais une pénurie de denrées alimentaires et produits de première nécessité se fait sentir. Les prix des aliments, à l'exemple du manioc, viande de bœuf, huile végétale, huile de palme et l'oignon ont grimpé. L'hôpital qui essaie tant bien que mal de fonctionner ne dispose pas assez de médicaments. De leur côté, les parents hésitent encore d'envoyer leurs enfants à l'école car la plupart des services publics restent paralysés. Pour l'instant, la ville de Bouda est sécurisée par les forces armées centrafricaines, la police, la gendarmerie et leurs alliés.
La suite de ce journal avec cette plainte des déplacés du site de l'hôpital du district de Boire.
Ces derniers déplorent leurs conditions de vie, ils manquent de nourriture et dorment à même le sol. Ces vulnérables demandent au gouvernement et aux ONG de voler à leur secours. Constant Dolobabou, notre correspondant à Boire, s'est rendu sur le site en reportage.
Ce site de l'hôpital du district de Boire accueille plus de 600 déplacés, composés majoritairement des enfants et des femmes, fuyant les combats qui ont opposé les forces armées centrafricaines aux groupes armés le 9 janvier dernier. Selon ces déplacés, depuis qu'ils sont là, ils n'ont reçu aucune assistance humanitaire. Face à cette précarité, Anselme Beyin, âgé de 54 ans, qui a sous sa responsabilité une vingtaine de personnes, déplore les conditions dans lesquelles ils vivent.
Notre vie ici c'est un peu précaire. On vit surtout sous les manguiers, sous les vérandas, avec les enfants. On souffre vraiment de la famine. Il n'y a personne pour nous aider. Avec la fraîcheur, avec les piqûres de moustiques aussi.
Même son de cloche du côté de Cynthia Kongolo, qui est également dans ce site, âgée de 24 ans, mère de 5 enfants. Elle assure que depuis qu'ils ont intégré ce site, ils vivent dans des conditions pitoyables, pas de nattes, pas d'aliments pour survivre et les enfants sont exposés aux piqûres des moustiques.
Notre condition de vie, c'est un peu critique. Nous sommes ici depuis le 9 janvier. On dort sous la véranda. Parfois, d'autres personnes se couvrent avec des pagnes, ce qui fait qu'on ne dort pas bien. Les enfants, les vieux, et vous savez qu'à boire, il y a beaucoup de fraîcheur. Cela fait qu'on souffre sérieusement. Nous demandons aux humanitaires vraiment de nous venir en aide. Vraiment, on ne vit pas bien.
C'est ce lundi 25 janvier que l'ONG I3D est venue prêter main forte à ces déplacés. Elle leur a remis des savons et des garnitures pour les femmes. Boire, Constant Dolobabou, Radio Ndekeluka.
Inès, la Cour pénale spéciale CPS réagit au transfert à la Cour pénale internationale de Mahamat Saïd Abdelkhani, un des généraux du FPRC.
Pour Alain Tolmont, substitut du procureur spécial de la CPS, la Cour pénale internationale est largement en avance sur ce dossier et les enquêtes sur Mahamat Saïd Abdelkhani ont été ouvertes avant la création de la Cour pénale spéciale en 2015. Alain Tolmont, au micro de Vianney Ingasso.
Vous savez, la Cour pénale internationale avait une longueur d'avance sur la Cour pénale spéciale. Il y avait au départ le dossier des centrafricains, le premier dossier, car 1, et avec les événements de 2012, il y a eu car 2. Avant, quand la Cour pénale internationale était déjà sur car 2, la Cour pénale spéciale n'était pas encore créée. Il a fallu le 3 juin 2015 pour que la Cour pénale spéciale soit créée juridiquement. Et les premiers magistrats de la Cour pénale spéciale ont prêté serment, ont été nommés, ils ont prêté serment qu'en 2017. Pendant ce temps, la Cour pénale internationale commençait déjà à mener ses enquêtes, à mener les investigations, était suffisamment avancée sur le dossier de CAR 2. Et pour le cas que vous citez, le mandat d'arrêt était, en fonction de leurs enquêtes, le mandat a été lancé, était sous-scellé depuis janvier 2019 jusqu'à ce que son dépouillement a permis d'interpeller le suspect Mahamat Saïd.
L'audience de première comparution de Mahamat Saïd Abdelkhani est prévue demain à la Cour pénale internationale.
Inès, parlons de cette montée de la maltraitance d'enfants à Bombari dans la Waka.
Un nouveau-né du sexe masculin abandonné par sa maman a été retrouvé tôt ce matin au quartier Kidikra. L'enfant a eu la vie sauve grâce à la vigilance des habitants. Sa maman, retrouvée de suite d'une recherche, est admise dans un centre psychiatrique pour déterminer les raisons de son acte. C'est ce qu'a indiqué Ulrich Balibanda, médecin-chef de l'hôpital régional et universitaire de Bombari. Il a été joint au téléphone par Bertie Ghislaine Amazouda.
Effectivement, c'est ce matin que nous avons reçu ce nouveau-né, un jour qui était abandonné dans une fosse septique. Et selon les informations que nous avons eues, donc cet enfant a été abandonné dans cette fosse septique. Les voisins ont fait des efforts pour faire sortir de cette fosse septique pour l'amener au niveau de l'hôpital. L'enfant de sexe masculin. Bon, pour l'instant, l'enfant est hospitalisé au niveau des services de néonatologie. Comme c'est un accouchement à domicile non assisté et l'enfant a été jeté, cet enfant a un risque d'infection qui est élevé. Donc, actuellement, l'enfant est en train d'être pris en charge au niveau des services de néonatologie de l'hôpital régional Université de Bombardier. La maman est retrouvée, on l'a amenée au niveau de l'hôpital. Nous avons envoyé au niveau des services de la santé mentale pour qu'on puisse faire la prise en charge. Et nous avons également fait une prise en charge de cette maman au niveau des services de la maternité parce que c'est un accouchement à domicile non assisté. Comme elle a abandonné son bébé dans une fosse septique, donc nous avons jugé mieux de l'orienter vers un service de santé mentale pour qu'on puisse faire une consultation de la santé mentale pour voir s'il n'y a pas un trouble psychologique ou un problème social associé.
À Birao, dans la Vakaga, l'affaire était restée secrète pendant plus d'un an.
Verdiane, cette affaire, il s'agit d'un viol perpétré par un homme de 42 ans sur sa fille adoptive de 13 ans. Et pendant plus d'un an, il continuait à coucher avec la jeune fille. L'homme a été arrêté la semaine dernière par les forces de l'ordre. À Birao, correspondance de Ramadan Abdelkader.
L'affaire est connue du public le 23 janvier dernier. Ce qui a déclenché cette histoire gardée longtemps secrète, c'est lorsque la jeune fille de 13 ans est rentrée tard d'une cérémonie de mariage. Sa maman décide de l'amener le lendemain à l'hôpital pour des examens. Les professionnels de santé ont donc constaté que la jeune fille est donc dépucelée. C'est de là qu'elle va révéler que c'est son père adoptif qui l'a déviergée. Il y a un an, lorsqu'il était parti couper des bambous de Chine dans la brousse, la fille a aussi déclaré que depuis lors, le monsieur de 42 ans continue de coucher avec elle. Paniquée par cette situation, la mère de la fille a alerté la gendarmerie. Pour l'heure, l'auteur du viol est maintenu à la brigade de gendarmerie en attendant la décision du procureur afin de procéder à son transfèrement à la maison d'arrêt de Bangui. Ramadan Abdelkader, Birao Radio, Ndekeluka.
Inès, un mot sur la pandémie du Covid-19 dans ce journal.
Le Royaume-Uni est à sa troisième vague de contamination. Il est le premier pays européen à dépasser le cap de 100 000 morts. Le monde a franchi le cap de 100 millions de personnes infectées par le Covid-19 et a tué plus de 21 millions d'autres.
L'Afrique du Sud projette 40 millions de vaccinations cette année 2021.
Cependant, les experts de la santé ont exprimé des doutes sur l'objectif du gouvernement qui prévoit de vacciner 40 millions de personnes cette année, ceci en l'absence d'un plan de vaccination finalisé.
Et puis, cette manifestation contre le confinement au Liban.
La manifestation a eu lieu hier dans le pays. C'est pour protester contre le confinement imposé par les autorités depuis le 14 janvier et prolongé jusqu'au 8 février. Une mesure pour empêcher la propagation du coronavirus. Cette mesure qui vient aggraver les conditions de vie difficiles. La page sport est présentée par Bienvenue Bello. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Football démarrage cet après-midi de la 9e et dernière journée du championnat allié de la Ligue de Bangui.
À 13h, en ce moment même, au stade Barthélemy Boganda, Bangré contre Pétainé, suivi du duel Castelfoot DFC 8 demain à partir de 13h aussi. Red Star recevra Sikaspor, puis ASOPT affrontera à 15h FC FDS.
Football encore, les Fauves U20 poursuivent leur séance d'entraînement à Bangui.
Ils se sont entraînés ce matin au stade Barthélemy Boganda à Bangui. Hier, les Fauves U20 ont joué un match amical devant les U17. Ils les ont battus sur un lourd score de 8-1. Ces Fauves juniors joueront la première Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire de la République centrafricaine. Le départ pour le stage au Maroc est prévu dimanche prochain. Mais pour le moment, le financement de la part du gouvernement est toujours attendu pour la prise en charge de cette équipe des jeunes. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la République centrafricaine est logée dans la poule B aux côtés du Burkina Faso, de la Namibie et de la Tunisie. La Coupe Cannes U20 est prévue du 14 février au 6 mars 2021 en Mauritanie.
Football à l'international, bienvenue Bello. La troisième et dernière journée du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun se poursuit sur les différents sites.
Deux matchs sont à suivre simultanément à partir de 20h dans le groupe B ce soir. Tanzanie contre Guinée et Namibie-Zambie. Hier, le Maroc et le Rwanda se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Maroc a battu l'Ouganda 5-2 et le Rwanda a eu raison de Togo 3-2.
27e championnat du monde masculin de handball, l'Égypte est en quart de finale.
Le pays hôte du tournoi est le seul pays africain qui est encore dans la course dans cette compétition. L'Égypte va affronter ce soir le Danemark. Dans les autres rencontres, la Suède va affronter le Qatar, France-Hongrie, Espagne-Norvège. La finale est prévue le 31 janvier prochain.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version en langue nationale, c'est tout de suite.